Chers amis, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre d'Esdras. Nous allons simplement relire au début du chapitre 1er les versets 2 à 4. Les chapitres 1er, les versets 2 à 4. Concernant le fameux décret de Cyrus, roi des Perses, par lequel Dieu nous interpelle durant ce week-end. Je lis au verset 2, « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires, pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. » Je le dis pour les amis qui nous rejoignent à l'occasion de ce culte, vous devez trouver sur votre chaise ou à proximité, sinon vous faites signe, il devrait y avoir quelques exemplaires, je suppose, à votre disposition, un petit document. Ce sont des points de repère historiques, puisque nous allons vers différents livres qui se complètent au niveau du message. Les livres d'Esdras, Néhémie, Agée, Zacharie, Malachie. Et il faut pouvoir mettre le puzzle en ordre, n'est-ce pas? Alors, ce document, vous pouvez l'emporter et l'utiliser par la suite pour vos besoins personnels. Il vous aidera dans votre propre réflexion biblique. Nous avons, depuis vendredi soir, considéré ce décret d'un roi païen. Dieu a trouvé bon, et nous l'en bénissons, dans sa souveraineté, dans sa grâce aussi, de retenir pour la postérité humaine un décret émanant d'un roi païen, et qui a donc tout un enseignement à donner au peuple de Dieu. Ce décret, nous l'avons lu au verset 3, se compose de trois parties. Tout d'abord, une question qui est aussi une interpellation quant à l'identité de ceux qui sont concernés par ce décret. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple? Et nous avons évoqué dans notre première réunion l'importance pour devenir un bâtisseur pour Dieu d'avoir une juste identité par rapport à Dieu, à savoir avoir la certitude absolue d'être membre du peuple de Dieu. Et à partir de cette affirmation que nous avons courtement développée, nous avons considéré la première des grandes tentations du peuple de Dieu quand il édifie l'Église, quand il évangélise, quand on s'édifie mutuellement, quand on veut que l'Église se développe, grandisse, glorifie Dieu, à savoir la tentation de l'amalgame. Laisser s'infiltrer des bâtisseurs qui ne font pas partie du peuple de Dieu, et qui pourtant se réclament de ce peuple, qui ont souvent un langage rusé, et qui, si l'on n'est pas vigilant, si l'on n'a pas communion étroite avec Dieu, vont réussir à s'infiltrer dans la place, et vont devenir des destructeurs de l'Église de Jésus-Christ. C'était notre première rencontre. Deuxième élément dans ce décret, que son Dieu soit avec lui. que son Dieu soit avec lui, parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Mais aussi parce que il y aura des difficultés, parce que l'ennemi va se dresser, parce qu'il va y avoir de grandes montagnes, avons-nous dit, et de faibles commencements, parce qu'il va y avoir les sarcasmes, le mépris, la moquerie, les menaces de l'adversaire. Tentation donc du découragement. Et nécessité de s'assurer que l'Éternel est vraiment avec moi. Parce qu'il est des moments où dans la vie avec Christ, l'Éternel, tout en nous aimant avec la passion absolue qui le caractérise, est obligé de se dresser en travers de notre route. Comme jadis, l'ange de l'Éternel se dressa sur le chemin de Balaam qui s'en allait vers la perdition. Tentation du découragement. Et puis c'était notre thème d'hier soir à partir de la troisième partie de ce décret qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous avons évoqué hier soir un personnage des Écritures qui, dans le cadre de ses livres, monte à Jérusalem. Il monte à Jérusalem parce qu'il a résisté à la tentation de l'indifférence. C'est Néhémie. Et nous avons vu tout ce que cela a signifié dans les deux premiers chapitres du livre de Néhémie pour cet homme de Dieu. Ce combat intérieur dans sa vie de prière, ce moment où Dieu l'interpelle de la manière la plus directe qui soit, en lui disant mais c'est toi à qui j'adresse mon appel, monte à Jérusalem. Et nous avons vu tout ce que cela a pu signifier pour Néhémie, ce haut fonctionnaire, au poste doré, au chéquier très épais, qui correspondait à un compte en banque, lui aussi certainement suffisamment matelassé et épais. Et nous avons vu cet homme de Dieu monter vers Jérusalem, se désolidariser sur ce plan-là de nombreux hommes et femmes d'Israël qui étaient partis là, qui s'étaient installés sur cette terre de déportation, qui s'étaient enrichis, et qui, eux, n'étaient pas du tout intéressés par le retour au pays. Et nous voulons maintenant considérer, dans notre conclusion, un second personnage, qui, lui aussi, est monté vers Jérusalem, qui a obéi à ce décret d'un roi, derrière lequel se cachait un décret de Dieu, adressé à ses enfants. Et ce personnage a donné son nom au livre qui nous intéresse, le livre d'Esdras. Et nous lisons donc dans Esdras au chapitre 7, simplement quelques versets, les versets 6 à 9 du chapitre 7. Les cinq premiers versets nous présentent la généalogie, la filiation de ce personnage. Ils nous permettent de nous rendre compte qu'il appartenait à une grande famille de sacrificateurs. Et au verset 6, il nous est dit que cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe, un docteur de la loi, un enseignant, un interprète de la loi de l'Éternel, un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem, la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Nous sommes donc en 458 avant Jésus-Christ, lorsque Dieu, l'Éternel, l'Éternel des armées, avons-nous dit hier, pose sa bonne main sur un homme. Et quand l'Éternel pose sa bonne main sur un homme, se passent alors des choses extraordinaires. Et c'est parce que Dieu pose sa bonne main sur cet homme que cet homme est rendu capable de monter à Jérusalem pour participer à cette œuvre divine de reconstruction. Cette expression, la bonne main de Dieu, revient, c'est intéressant, quelques 6 fois dans les chapitres 7 et 8 du livre d'Esdras, mais aussi, nous le verrons, 2 fois au début du livre de Néhémie, en particulier dans le chapitre 2. Donc, 8 mentions. Un même langage, l'art de la répétition, qui fait partie de l'art de Dieu, le divin pédagogue, l'enseignant remarquable, qui, lorsqu'il veut attirer notre attention sur une grande vérité, sait la répéter, même au mépris des règles, de style, de la langue, pourvu que nous retenions le message. Et j'aimerais ici faire une première remarque pour souligner l'amour de Dieu. L'amour de ce Dieu dont nous avons dit hier qu'il était transcendant, qu'il nous dépassait infiniment, qu'il était le totalement autre, aux antipodes, totalement séparé de sa création, à ne surtout jamais confondre avec elle. Créateur du cosmos. Et qui pourtant, loin de ressembler au plus puissant chef d'État de ce monde, se plaît à se mettre à la portée des hommes, en utilisant notre langage, en utilisant nos réalités, pour se dévoiler à nos yeux et pour nous faire comprendre qui il est. Quel rapport il veut entretenir avec nous. C'est vrai que il est tout de même curieux d'évoquer le Dieu qui est esprit en évoquant sa bonne main. Sauf si c'est précisément cet effort de l'amour de Dieu qui se met à notre portée. Et qui donc accepte pour que nous puissions l'appréhender, comprendre ce que nous devons comprendre de lui, de son œuvre, se présente comme ayant des mains, des pieds, des oreilles, des lèvres, une bouche, même un nez, puisque dans le texte hébreu, chaque fois qu'il nous est dit, ou dans un grand nombre de textes de l'Ancien Testament, où il nous est dit que Dieu se met en colère, le texte hébreu dit exactement, Dieu a son nez qui s'enflamme. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Cette manière dont Dieu s'approche de nous, dont Dieu utilise notre vocabulaire pour que nous puissions comprendre quelque chose de lui. Et cela me conduit à aller plus loin encore, à dire que dans son amour, effectivement, à un moment de l'histoire humaine, ce Dieu difficilement saisissable, compréhensible, et heureusement parce qu'il ne serait pas Dieu, a accepté volontairement de prendre forme humaine dans l'incarnation. Et la bonne main de Dieu est devenue une réalité palpable, une réalité physique, une réalité matérielle, parce que des hommes et des femmes sur les chemins de la terre d'Israël ont été touchés par la bonne main de Dieu devenue visible, palpable, dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que la bonne main de Dieu? Bien entendu, dans les Écritures, la main est symbole de l'activité, l'action, l'action même puissante. Et bien entendu, la bonne main de Dieu sera l'action d'un Dieu qui fait du bien. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 11, verset 20, Jésus disait à ses détracteurs, à ses adversaires, que c'était par le doigt de Dieu, il ne disait même pas par la main de Dieu, Dieu est tellement puissant, mais par le doigt de Dieu qu'il chassait les démons. Et lorsqu'on lit le texte parallèle de Matthieu 12, 28, où Jésus tient le même discours face aux mêmes adversaires, l'évangéliste a retenu dans le discours de Jésus, qui se répétait lui aussi pour bien être compris, que Jésus disait à ses adversaires que c'était par l'Esprit de Dieu qu'il chassait les démons. Si je comprends bien donc, doigt de Dieu et Esprit de Dieu appartiennent au même ordre de pensée dans les Écritures. D'ailleurs, dans Agé chapitre 2, versets 4 et 5 que nous lisions hier soir, Dieu avec nous est associé à l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Dieu s'est donc manifesté dans la vie d'Esdras comme un Dieu fidèle, un Dieu agissant en sa faveur, agissant en lui, par lui, au moyen de son esprit, parce qu'il est le Dieu qui bénit. Mais nous devons toujours nous souvenir que la main de Dieu qui bénit, c'est une main qui, pour l'éternité, je dis bien pour l'éternité, est et sera une main percée. Pour l'éternité, lorsque tous ceux qui sont véritablement du peuple de Dieu seront rassemblés et travailleront ensemble, j'en suis persuadé, mais non pas avec la connotation douloureuse du travail, mais dans la joie de la perfection d'un travail qui ne sera pas autre chose qu'un bonheur éternel d'accomplir le plan de Dieu qu'il réserve pour les âges à venir, n'est-ce pas ? Nous ne pourrons jamais oublier que la main de Dieu qui bénit est une main percée, parce que nous aurons toujours en face de nous celui qui siégera comme l'agneau immolé. Nous serons toujours pour l'éternité. Comment un jour nous avons été introduits dans la vie éternelle et dans le ciel de gloire. Ces deux chapitres, 7 et 8 d'Esdras, indique quatre directions d'action de la bonne main de Dieu en faveur de ses enfants. Quatre domaines dans lesquels Dieu se plaît à poser sa bonne main sur son peuple. Lorsque son peuple se compose d'hommes et de femmes qui désirent être de vrais bâtisseurs pour lui. Alors il pose sa bonne main sur eux dans quatre directions. Cela aurait pu être le thème de notre week-end, avoir quatre études, chacune de ces études traitant d'une de ces dimensions d'action de la bonne main de Dieu. Nous allons simplement donc résumer pour en tirer enfin tout à l'heure des conclusions. Et nous allons nous rendre compte, surtout pour ceux et celles qui ont participé aux trois précédentes études, que nous allons retrouver ici et là des éléments appartenant à notre enseignement depuis vendredi soir. Tout d'abord, chapitre 7, verset 6, nous l'avons lu, « Comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi, donc Artaxerxès, lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Voulez-vous être de véritables bâtisseurs pour Dieu dans l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, sachez que la bonne main de Dieu pourvoit à tous les besoins. La bonne main de Dieu pourvoit à tous les besoins. Et il y avait des besoins immenses. Pour le temple de Jérusalem, sa reconstruction était achevée depuis plus de 50 ans. Et pourtant, il y avait des besoins, je dirais, en matière de logistique, d'intendance. Il y avait des besoins au niveau des hommes, il y avait des besoins au niveau du matériel nécessaire pour pouvoir servir dans le cadre du temple. Et Esdras a entrepris une démarche très difficile auprès d'Artaxerxès, un souverain qui n'a pas toujours été favorable à Israël. Nous avons remarqué hier que, notamment dans Esdras 4, 7 à 23, il nous a dit qu'Artaxerxès, à un moment donné, a cédé aux pressions de certaines personnalités qui étaient hostiles à la reconstruction, et qu'il a fait donc interrompre les travaux de reconstruction des murailles, des portes de la cité de Jérusalem par la violence, par la force. C'était donc un souverain qui s'était montré hostile à l'égard de ce travail de reconstruction. Et Esdras aurait donc pu considérer qu'il était absolument inutile d'aller frapper à la porte de ce souverain. Il aurait pu se dire simplement, c'est cuit d'avance, c'est perdu, de toute façon, cet homme dira non, il s'est montré hostile, il a même été très violent à notre égard, pas du tout. Esdras, à un moment donné, est convaincu qu'il doit intervenir, et il intervient. Et il nous est dit au verset 27, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel. » Il se trouve que Dieu fait le miracle et Dieu va disposer favorablement le cœur du roi. Dans le livre de Néhémie au chapitre 2, à deux reprises, Néhémie va souligner que l'Éternel est intervenu également dans le cœur du roi Artaxerxès, chapitre 2 de Néhémie au verset 8, il est dit à la fin du verset 8, « Le roi me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Ce roi qui aurait pu ordonner sa mise à mort parce que ce haut fonctionnaire avait osé se présenter devant sa face dans un état de tristesse absolument détectable au premier instant, n'en fait rien. Bien au contraire, ce roi au cœur d'acier se met à compatir à la souffrance de son serviteur parce que Dieu incline son cœur. Et il répond à sa demande. Chapitre 2 toujours, et au verset 18, « Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. » Quel beau témoignage. La main de Dieu est une main puissante. La main de notre Dieu est une main puissante. Elle n'est pas seulement puissante pour Esdras, pour Néhémie, pour Moïse, pour David, pour l'apôtre Paul et pour d'autres, ceux que nous serions tentés d'appeler les géants dans l'histoire du peuple de Dieu, et qui en réalité n'étaient que les humbles serviteurs d'un Dieu tout-puissant. Mais la main de Dieu est puissante pour moi. Je pense à cette petite fille qui était allée chez l'épicier pour faire une commission pour sa maman. Et l'enfant était tellement agréable, tellement charmant, que le commerçant ouvrit, comme c'était le cas encore dans mon enfance, le bocal de bonbons. Vous savez que dans toutes les épiceries il y a pas mal d'années maintenant, il y avait le bocal de bonbons. Et je me souviens que j'avais certaines joies à aller chez l'épicier, parce que je savais que si j'étais gentil, j'aurais peut-être droit aux bonbons. Bocal spécial bonbons pour les enfants sages de la clientèle. Alors, il présente le beau bocal à la fillette et il lui dit « Tiens, petite, serre-toi !» Alors, comme elle prend un bonbon, l'épicier lui dit « Mais prends-en plein ta main !» Et alors, la petite fille, à un moment d'hésitation, elle dit « Mais alors, est-ce que monsieur, vous ne voudriez pas les prendre vous-même ?»« Ah bon, mais pourquoi donc, mon enfant ? Tu es aussi capable que moi de prendre une poignée de bonbons dans un bocal ? Eh oui, mais monsieur, vous avez une main plus grande ?» Il vaut mieux bâtir avec la main de Dieu, mes amis. Parce que la main de Dieu est une main plus grande que la nôtre. Et le problème, c'est justement que trop souvent, nous bâtissons avec nos petites mains, hein, au lieu de mettre nos petites mains dans la main de Dieu, pour que la main de Dieu recouvre nos petites mains, et que nos petites mains disparaissent, et que nous voyons la grande main de Dieu à l'œuvre. Oh, je pense à ce 13 août d'il y a quelques années, alors que j'enseignais dans un camp de famille à Champfleury, dans la région de Grenoble. Et ce vendredi 13 août, nous faisions une excursion vers un lac situé dans le massif du Beldon, aux alentours de 2000 mètres d'altitude. Et j'étais en queue, je fermais la marche, j'étais un peu la voiture balai pour récupérer ceux qui auraient quelques problèmes. Et il y avait devant moi une maman avec sa petite fille, Marielle, âgée de 7 ans. Et voilà que, à un moment donné de la montée, qui était assez raide à certains endroits, la maman se tourne vers moi et me dit « Monsieur Decker, ma petite Marielle vient de me dire quelque chose. Elle vient de me dire « Maman, j'ai besoin de la main d'un homme. » Oh, j'ai compris l'appel. Il était d'ailleurs d'autant plus touchant qu'il émanait d'un enfant qui était séparé de son papa. La maman était divorcée. Il y avait donc aussi un cri du cœur qui allait beaucoup plus loin. Alors elle est venue, elle m'a rejoint dans ma petite voiture balai. J'étais d'ailleurs seul à ce moment-là. Et elle a pris ma grande main et elle a serré sa petite menotte. Et nous sommes montés ensemble et elle gazouillait comme un pinson. Et puis c'était très beau dans la suite de ce camp de voir cette fillette en mal de papa qui, de temps à autre, venait en quelque sorte remplir son réservoir d'amour en venant passer quelques instants sur mes genoux. Et puis elle repartait plus heureuse qu'une reine pour continuer à jouer avec les autres enfants. La main de Dieu est une main puissante. La main de Dieu est une main puissante. Je pense à cette interrogation, la main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Voilà comment Dieu répondra à Moïse alors que celui-ci lui dit « Mais comment ferais-tu pour donner de la nourriture, de la viande, etc. dans le désert à quelques 600 000 hommes d'armée plus leur famille ? Et ceci pendant un mois entier ?» Et Dieu de répondre « Mais la main de l'Éternel serait-elle trop courte ?» Ce n'était pas un problème pour lui. Je pense au vieillard David dans sa 70e année, peu avant de mourir, qui résume sa philosophie de vie. Et c'est vrai que notre vieillesse est le reflet de la manière dont nous avons vécu. Et le langage est beau chez ce vieillard qui dit dans les Chroniques 29, versets 11 et 12, À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Chronique 29, 11, 12. Oui, notre Dieu a une main infiniment puissante. Dieu est celui qui intervient dans nos circonstances impossibles. Dieu est celui qui intervient dans nos impasses. Comme quelqu'un l'a dit, quand Dieu veut faire un petit miracle, il nous place dans une situation difficile. Mais quand il veut faire un grand miracle, il nous place dans une situation impossible. Mais notre problème, c'est que nous n'aimons pas du tout l'inconfort des situations impossibles. Et quand nous commençons à nous sentir dans les brûlures d'une situation impossible, nous commençons à utiliser nos mains maladroites pour tripatouiller, pour magouiller, pour essayer de nous en sortir sans l'intervention de la grande et bonne main de Dieu. Jésus, le Christ, est le maître de l'impossible. Ici, Dieu a disposé le cœur d'un grand roi païen, car le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe chapitre 21, verset 1er. Et ceci résume ce que nous avons dit hier et avant-hier, à savoir que les conceptions qu'un homme a de Dieu déterminent son attitude par rapport à l'heure dans laquelle il vit. Dites-moi, quelle est votre vision de Dieu? Et je vous dirai comment vous vivez votre vie personnelle. Oh, et vous savez, vous et moi, nous sommes sur le chemin de l'apprentissage dans ce domaine. Nous avons tant de progrès à faire. Nul d'entre nous ne peut dire dans ce domaine qu'il est arrivé. Oh, bien loin de là. Bien au contraire. Chapitre 7, verset 28. Je lis à partir du verset 27. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi, glorifié ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs, fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » La bonne main de Dieu fortifie. Quelle était la situation d'Esdras? Oh, je me mets dans sa peau. Quelle crainte devait saisir cet homme lorsqu'il réfléchissait tant soit peu à la nature et à l'ampleur de l'entreprise dans laquelle il s'engageait. Rendez-vous compte. Voyage de 1500 km, non pas en jet, ni par TGV, ni même dans nos bons trains corail, ou dans une voiture spacieuse. Loin de là, durée prévue du voyage, 4 mois. Dans une région inhospitalière, impossible d'avoir l'air conditionné, n'est-ce pas? Avec tout ce que cela pouvait signifier. Il n'était pas seul, environ 1800 hommes avec lui, sans compter tout leur déménagement, l'épouse, les enfants, j'allais dire les poules, les canards et tout le reste. Enfin, c'était un immense déménagement. Et un déménagement qui allait susciter la convoitise de tous les rançonneurs et autres brigands du désert. Il fallait traverser des contrées hostiles, avec au moins 3 tonnes d'or, 20 tonnes d'argent, 3 tonnes d'ustensiles en argent, etc. Et je suis très prudent là, parce que les talents étaient des mesures qui pouvaient aller du simple au double, de 30 à 60 kilos à peu près. Donc je n'ai pas pris le 60, j'ai pris, si possible, bien plus bas. Et c'est encore très impressionnant. Et puis l'angoisse devant l'ampleur de la tâche à Jérusalem, Esdras n'ignorait pas combien cela avait été difficile jusque-là. Mais la bonne main de Dieu a su dominer ses craintes, l'encourager, le renouveler, le fortifier en vue de la tâche à accomplir. Et mes bien-aimés, rien de tel que les manifestations de la fidélité de Dieu pourvoyant à nos besoins, le premier aspect de la bonne main de Dieu, pour être fortifié. Il y a un lien entre les deux. Si j'ai fait connaissance d'un Dieu dont la bonne main pourvoit à tous mes besoins, je serai d'autant plus encouragé à aller plus loin, je serai fortifié parce que j'aurai touché du doigt la fidélité de Dieu dans mes circonstances, dans ma vie passée jusqu'ici. En 1939, le roi George VI adressa un court message de Noël au peuple de Grande-Bretagne, alors que la Deuxième Guerre mondiale venait de débuter. Londres devait déjà faire face aux assauts d'Hitler. Et en parlant au peuple, en ce jour de Noël, le roi George VI de conclure ses remarques par les paroles suivantes, écrites quelques 30 années plus tôt. « Je dis à l'homme qui se tient à la porte de l'année, donne-moi une lumière pour que je puisse marcher en toute sécurité dans l'inconnu. » Et il me répondit, « Avance dans les ténèbres et mets ta main dans celle de Dieu. Ce sera mieux pour toi qu'une lumière et plus sûr qu'un chemin connu. » Nous avons évoqué hier soir ou hier après-midi la manière dont l'Éternel fut avec Joseph, parce que Joseph n'était pas avec la femme de Potiphar. Et il est dit dans Genèse 49, 24 au sujet de Joseph qui fut si souvent en situation difficile, ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Un des versets qui a été pour moi source de réconfort, de soutien dans certains des moments les plus difficiles de ma vie et de mon ministère jusqu'ici, c'est Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Oui, la main de Dieu est une main qui fortifie. Chapitre 8, les versets 15 à 18. Je l'ai rassemblé près du fleuve qui coule vers Arava, dans la région de Babylone, sans doute un des canaux de la région de Babylone. Et nous campâmes là 3 jours durant. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Eliezer, Ariel et suivent un certain nombre de noms, je les envoyais, verset 17, vers le chef Iddo demeurant à Cassifia. Et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo, à ses frères, les Nétiniens qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, et avec lui un certain nombre de personnes, en réalité un bon nombre même, il est question de 260 serviteurs accompagnant cet homme de bon sens, Chérébia. La bonne main de Dieu désigne les collaborateurs. Il manquait des sacrificateurs, il manquait des lévites pour le service du temple de Jérusalem. Il manquait des serviteurs pour la maison de Dieu. Et nous en avons parlé hier soir en évoquant le besoin sur le champ missionnaire en France et ailleurs. Et vous remarquez cette similitude d'attitude entre Esdras et Néhémie. comme Néhémie, Esdras dirige son attention. Esdras s'informe. Esdras réfléchit. Esdras observe. Et parce qu'il observe, Dieu met sur son cœur un fardeau. Et Esdras devient un homme de vision. Pas un homme de vision tel qu'on le conçoit trop souvent aujourd'hui, qui n'ont absolument rien à voir avec les Écritures. Mais il devient un homme qui a une vue, une acuité de vue dans le domaine spirituel concernant les besoins de l'Église de Jésus-Christ. Et cet homme, Esdras, va être inspiré dans la marche à suivre pour que ses besoins soient satisfaits. Il va savoir comment communiquer un message convaincant. Il va trouver des relais, il va trouver les personnes appropriées pour que ce message aille plus loin. Et Dieu, parce que sa bonne main est à l'œuvre, va donc donner un homme intelligent, avisé, et 260 autres serviteurs avec lui. Faut-il évoquer les besoins spirituels écrasants aujourd'hui dans l'Église? Les besoins de sacrificateurs et de lévites, c'est-à-dire les besoins de ministères dans l'Église. Les besoins d'adorateurs dans l'Église. Les besoins de colonnes dans l'Église, d'hommes qui introduisent vraiment d'une manière toute particulière le peuple de Dieu dans l'intimité de Dieu. Besoin de dons spirituels, besoin de croyants consacrés, engagés à fond, besoin de témoins de Christ qui évangélisent, besoin de croyants qui servent, au lieu de n'être que des croyants consommateur. Lorsque la bonne main de Dieu est à l'œuvre, à l'heure de Dieu, nous l'avons dit hier, ses besoins sont satisfaits, des cœurs sont touchés, des vies se consacrent. La bonne main de Dieu désigne les collaborateurs. Et enfin, chapitre 8, verset 31, nous partîmes du fleuve d'Arava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. La bonne main de Dieu protège et délivre du danger. Et cela, il nous faut le dire, à une époque où fleurissent comme jamais dans l'histoire, des assurances de tout poil. Non seulement nous sommes assurés, mais nous sommes surassurés. Nous nous protégeons, nous nous entourons de tous côtés, de manière à être protégés par les systèmes humains. Certes, que nous participions à la solidarité nationale, dans toutes sortes d'assurances qui, elles, sont obligatoires, et qui vont éviter à d'autres de devoir peiner à cause de notre manque de bon sens, c'est une chose. Mais que nous nous surassurions, comme si Dieu était incapable de s'occuper de nous et de nous protéger, il y a là quand même une réflexion que nous devrions entreprendre pour faire la part des choses entre les assurances avec lesquelles Dieu dit « Ok, vas-y, sois solidaire, c'est normal, tu appartiens à un peuple, tu peux me bénir. » Il y a des paramètres qui sont un petit peu différents entre les deux personnes et qui nous amènent simplement à devoir faire très attention dans nos jugements faciles en ce qui concerne la marche par la foi. Dieu me conduit tantôt à prendre une assurance, tantôt à la refuser. Ceci pour m'obliger à vivre tout près de lui. Je suis obligé de dépendre de lui. Si je prends comme principe systématiquement, dans toutes les situations, d'avoir toujours une assurance, une protection humaine, je cesse de dépendre de Dieu. Alors tantôt Dieu veut que je sois un Esdras, tantôt il veut que je sois un Néhémie. Cela m'oblige, devant chaque nouvelle situation, à dire: Seigneur, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu veux? Dois-je prendre une assurance annulation dans le cadre de ce voyage en avion? Dois-je ne pas le faire? Seigneur, je veux faire ta volonté. Tu es le seul qui connaisse l'avenir. Alors Seigneur, je veux vivre suffisamment près de toi pour pouvoir, dans ce domaine, saisir ta pensée. Une remarque ici, pour souligner que la bonne main de Dieu a protégé Esdras et ses compagnons des attaques. Et c'est vrai que certains, dans le monde évangélique, font une surenchère dans ce domaine. Et sont tentés de donner un message dans lequel, obligatoirement, la bonne main de Dieu doit nous protéger des attaques. Nous devrions vivre un christianisme à succès, à grande prospérité, échapper à toutes les souffrances, là où les Écritures nous montrent pourtant que souvent la bonne main de Dieu nous garde, nous délivre, nous protège dans l'attaque, dans la fournaise, dans l'épreuve. Il a plu à Dieu de protéger Esdras et ses compagnons de l'épreuve, mais il a plu au même Dieu, par l'effet de sa bonne main, de garder les compagnons de Daniel dans la fournaise, de vivre une expérience difficile, mais il était avec eux dedans. Et les compagnons de Daniel avaient une telle maturité qu'ils étaient même capables d'envisager une autre alternative. C'est d'être gardé de l'épreuve, d'être gardé dans l'épreuve, ou même de mourir dans la fournaise. Ils ne renieraient pas leur Dieu. Ça, c'est une attitude de maturité. La bonne main de Dieu tantôt nous garde de l'épreuve, tantôt nous garde dans l'épreuve, et tantôt va nous accompagner dans ce qui peut être une fournaise, ce dernier ennemi, la mort, qui un jour sera vaincu. Jean 10, 27, 29, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et c'est là l'essentiel. C'est là l'essentiel. De savoir que jusqu'au bout, jusqu'à la traversée de cette dernière vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Parce que la bonne main de mon Dieu m'accompagnera jusqu'au bout. Et en passant par la vallée et en traversant le fleuve, les mains percées de Jésus-Christ m'attendent déjà de l'autre côté. Je le verrai, et le voyant face à face, je lui ressemblerai. Je serai transformé. Je le verrai, et tel que lui, je serai. Conclusion. Il y a dans ces deux chapitres les conditions d'action de la bonne main de Dieu. Parce que si l'action de Dieu, la bonne main de Dieu est grâce, Dieu veut créer dans notre vie des dispositions qui lui permettent de la mettre en action. Quelles sont les conditions d'action de la bonne main de Dieu? Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23, nous avons lu les versets 21 et 22. Pourquoi donc Esdras et ses compagnons ont refusé de demander au roi une escorte, fin du verset 22, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Et un avertissement. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invocâmes notre Dieu et il nous exauça. Mes bien-aimés, un bâtisseur pour Dieu se doit d'être un chercheur de Dieu. Esdras, tout comme Néhémie, est un chercheur de Dieu. C'est un passionné de Dieu. C'est un homme qui recherche sa présence, qui se mobilise dans le jeûne et la prière. C'est un homme disponible. C'est un homme assoiffé d'une connaissance plus vraie, plus juste, plus intime de Dieu. Un homme qui cherche à découvrir sa pensée, sa mentalité, son caractère, ses conceptions, ses desseins pour mieux pouvoir le servir. Il s'agit de la bonne main de son Dieu. Même pas de la bonne main de Dieu, la bonne main de son Dieu, la main de notre Dieu. Trop souvent, quand nous nous donnons à Jésus-Christ, nous avons l'impression d'être déjà arrivés au bout. Je lui appartiens, bon ben c'est bien. Puis on grandit quelque peu, puis il arrive un moment où on se sent satisfait. Ce qui caractérise le véritable bâtisseur, le véritable disciple de Jésus-Christ, c'est qu'il est toujours en train de chercher. Il a trouvé Jésus-Christ. Il a la certitude de son salut. Il a la vie éternelle. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais sur ce socle-là, qui ne bouge plus désormais, il va aller de découverte en découverte, parce qu'il ira aussi de recherche en recherche. Parce qu'il a soif de connaître ce Dieu tellement extraordinaire. Quelqu'un écrit que certains esprits en arrivent promptement à se contenter d'un certain acquis. Ayant travaillé au début, ils ont perdu le sentiment de leur vide. Ils ne songent pas que nous sommes toujours vides de ce que nous n'avons point. Et que dans un champ de découverte illimité, il n'y a jamais lieu de se dire « arrêtons-nous là ». Jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, nous avons encore quelque chose à apprendre au sujet de notre Dieu, de son œuvre, de son Fils, de l'Église, de nous-mêmes, etc. Dans les Écritures, les chercheurs de Dieu ont été des bâtisseurs pour Dieu. Et Dieu cherche des chercheurs de Dieu. Les lionceaux éprouvent la faim, la disette. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, psaume 34, verset 11. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. Mais cherchez premièrement de manière continuelle. Le royaume et la justice de Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Nous aurions pu lire le texte autrement. Verset 22, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui cherchent la main de notre Dieu. Ça n'aurait pas été la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que notre ami Esdras dit que la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Chercher Dieu, Dieu lui-même, non pas d'abord chercher ses dons, nous devons aspirer aux dons les meilleurs, mais ne jamais les détacher du donateur. Le donateur est beaucoup plus important que ses dons. Or, nous avons fait tellement souvent dans nos églises de Dieu un épicier. Seigneur, donne-moi un kilo de ceci. C'est pas toi qui m'intéresse. Après tout, si je peux aller me servir dans un hypermarché et ne pas voir l'épicier, ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est ce que je vais mettre dans mon caddie évangélique. Alors Dieu dit, désolé, mais moi je ne fonctionne pas comme les supermarchés, comme les hypermarchés. Tu dois avoir une relation avec moi, je suis l'épicier. Mais je suis plus qu'un épicier. Ma personne est beaucoup plus importante que tout le reste. Quelqu'un écrit, la mauvaise habitude de chercher Dieu est, nous empêche effectivement de trouver Dieu dans sa pleine révélation. C'est dans ce « et » que réside notre grand malheur. Si nous omettons le « et » nous ne tarderons pas à trouver Dieu, et en lui nous trouverons ce à quoi nous avons aspiré en secret toute notre vie. Jean Hus, ce pré-réformateur qui paya de sa vie à Constance sa fidélité à Dieu, écrivit, quiconque demande à Dieu autre chose que Dieu ne cherche pas Dieu chastement. Cherchez Dieu pour lui-même. Parce que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Je pense à cette petite fille qui était dans un magasin de poupées avec sa chère maman, et sa maman de lui dire, chose à ne jamais faire, ma chérie, choisis une poupée. Il y en avait des centaines et des centaines. Et bien entendu, la petite fille a fait tourner sa maman en bourrique. Elle prenait une poupée, elle disait, c'est celle-là. Et quand sa maman sortait son chéquier, elle dit, ah non, c'est celle-là. Et petit à petit, la moutarde montait au nez de maman qui dit, mais s'il te plaît, chérie, maintenant, il faut que tu choisisses. Tu mets la marchande dans un état aussi. Dépêche-toi un peu. Et finalement, la petite fille s'arrête. Elle regarde sa maman. Elle regarde la marchande. Et elle regarde si bien la marchande que finalement, la marchande dit, mais petite fille, qu'est-ce que tu as? Et la petite fille se tournait alors vers sa maman, lui dit, maman, s'il te plaît, je veux la marchande. Oh, chérie, on ne dit pas des choses pareilles. Mais si, maman, je veux la marchande. Et la marchande dit, mais petite fille, pourquoi est-ce que tu veux la marchande? Mais c'est très simple, madame, parce que si j'ai la marchande, j'aurai toutes les poupées. N'est-ce pas? Cherchez Dieu. Cherchez Dieu, vous ne serez pas déçus. Mais, et je termine avec cela, ne cherchez pas Dieu n'importe comment. Parce qu'il y a un tas de gens aujourd'hui qui cherchent Dieu, y compris dans nos milieux évangéliques. Mais je ne sais pas quel Dieu ils cherchent. Ils le cherchent dans toutes sortes d'expériences sublimes. Parfois même en totale contradiction avec la parole de Dieu. Or, Esdras 7, versets 9 et 10, tout y est dans ce texte. Il était parti de Babylone le premier jour du mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à faire des expériences mystiques. Est-ce qu'il était monté là, sur les ailes de je ne sais pas quel Icare spirituel? Non. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Chercher Dieu non pas dans une sorte d'illuminisme vaporeux, de mysticisme sentimental, tellement à la mode. Non. Esdras est un amoureux des Écritures. C'est un passionné sérieux de la parole de Dieu et du Dieu qui parle. Et qui parle au moyen de ce livre absolument extraordinaire. Esdras applique son cœur. Et c'est intéressant parce que certaines versions, notamment la version judaïque du rabbinat français, rendra ici Esdras a appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la doctrine de l'Éternel. Ça fait froid dans le dos, la doctrine. Nous, on veut faire des expériences. La doctrine de l'Éternel. Toute la loi de Dieu. Y compris ces passages difficiles. toute la doctrine de l'Éternel. Pour avoir une vision juste de Dieu, il y applique son cœur, c'est-à-dire toutes ses facultés. Pas simplement les petits sentiments, pas simplement et uniquement sa petite raison. Il n'y a d'un côté ni pathologie froide et morte sur cette céramique glacée des instituts légaux dans lesquels on dissèque des cadavres. Non, pas ça. Et de l'autre côté, non plus, pas de lyrisme émotionnel délirant, non. On cherche Dieu dans sa parole, avec toutes ses facultés, à toutes ses forces. Avec l'intelligence, la faculté de raisonner, de réfléchir, et aussi avec le monde de ses sentiments, parce qu'il n'est pas absent des Écritures. Il avait appliqué son cœur à étudier, une version dit à chercher, à étudier. Beaucoup lisent la Bible, trop peu l'étudient. Mais aussi à mettre en pratique, dit le texte, et à enseigner, c'est-à-dire à partager autour de lui tout ce que Dieu lui disait au travers de sa parole. Voilà ce que j'appelle le triptyque, la trilogie, le trépied d'une vie chrétienne équilibrée. Chercher Dieu en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, dans sa parole, le chercher, en étudiant, en mettant en pratique et en enseignant, en partageant, chacun à notre niveau, avec les capacités que Dieu nous donne, chacun à sa place, avec nos dons, tous appelés à partager plus loin. Voilà, mes bien-aimés, une conclusion heureuse à notre série sur devenir un bâtisseur pour Dieu. Et vous savez que suite à cette attitude d'Esdras, ayant la bonne main de Dieu sur lui dans ses quatre directions, il y eut à Jérusalem et en Judée un véritable réveil spirituel. Quand Dieu trouve des hommes sur lesquels il peut vraiment poser sa bonne main de cette manière, Dieu, encore aujourd'hui, dans ce monde en ruine, est capable de bâtir glorieusement son Église. Il le fera jusqu'au bout. Jésus est le vrai bâtisseur. Rien ne saurait s'opposer à son action. Puissions-nous, vous et moi, nous inscrire véritablement dans ce programme. Chacun à notre niveau, à notre place, tous des petits serviteurs d'un grand Dieu qui se plaît à mettre sa bonne main sur nous, sur ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Seigneur, merci, merci de tout cœur. Merci pour ta bonne main. Merci parce que tu t'approches avec tant d'amour, tant de sollicitude de nous pour que nous puissions comprendre ton langage, qui tu es, comment tu travailles. Alors merci parce que nous comprenons si bien, c'est quelque chose de tellement concret que ta bonne main. Et Seigneur, qui d'entre nous voudrait se passer de cette bonne main? Alors donne-nous, Seigneur, de notre côté, porté par ta grâce, d'être des chercheurs, dans ta parole, de te chercher, de te sonder, de vouloir vraiment te connaître, t'aimer, d'être passionné de toi, de te mettre à la place qui te revient, de chercher premièrement ton royaume et ta justice, pour que nous soyons de ta part bénédiction pour l'Église et pour nos contemporains. Là où tu nous as placés. Donne toi-même
la suite concrète à ce que nous avons partagé de ta part. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.